Bonjour, bonsoir, Claude Cyril au micro de Fréquence Droit. Fréquence Droit, c'est le rendez-vous mensuel de la section des 10e et 11e arrondissements de la Ligue des Droits de l'Homme à Paris. Une émission diffusée sur Aligre FM. Ce soir, numéro 2 d'une série de 3 émissions exceptionnelles centrées sur les élections municipales des 15 et 22 mars. En France, les municipales ne sont jamais de simples élections locales. Elles révèlent souvent des tendances profondes qui finissent par s'exprimer au niveau national. Fréquence Droit, émission de la Ligue des Droits de l'Homme, ne se range derrière aucune formation politique. Mais dans ce scrutin, la Ligue des Droits de l'Homme défend clairement ses valeurs partout sur le territoire. Elle se bat, elle s'engage dans le débat public. La Ligue combat les injustices, le racisme, le sexisme, l'antisémitisme et toutes les discriminations. Elle défend la laïcité, elle défend les libertés, l'égalité des droits et la fraternité comme socle d'une société moderne. Enfin, elle se mobilise contre l'extrême droite, la xénophobie et le nationalisme. C'est dans cet esprit que ce mois-ci, Fréquence Droit a choisi de tenter d'apporter une réponse à une question importante. Quel rôle pour le mouvement associatif dans la situation actuelle, situation troublée ou importante en tout cas? Fréquence Droit du 23 février 2026, ça commence maintenant.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Aujourd'hui, Fréquence Droit donne donc carte blanche à plusieurs associations. Didier Racinet, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef d'Altermédia et vous allez nous dire ce qu'est l'Altermédia.
Bah, Altermédia, c'est une revue mensuelle, trimestrielle, qui est effectivement qui s'est donné pour mission de rechercher les voies d'une écologie sociale et d'une transformation de la société dans ce sens. Et elle a récemment mené une enquête sur un an sur comment refonder la démocratie, refondation qui nous paraît tout à fait nécessaire, et la situation des élections va nous le montrer.
Autre structure invitée de notre émission ce soir, Nicolas Bigard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du collectif Média Le Moment. Même question, même punition.
On est un collectif média, effectivement, composé de journalistes, de réalisateurs, de metteurs en scène, écrivains, photographes, musiciens, et installé à Césure, dans le tiers-lieu Césure.
Césure qui est, voilà.
Voilà, on est dans les studios de Césure, et puis ce collectif travaille à une autre forme de partage de l'information et à créer des formats plus, disons, des formats hybrides de partage de cette information.
On va sans doute en parler. Deux regards associatifs, donc deux expériences de terrain. Et puis une troisième expérience incarnée par Jean-Baptiste Jobard. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir.
Vous êtes avec le CAC. Le CAC, on va voir de près ce qu'est le CAC.
Alors, le CAC, c'est un collectif qui, depuis 2016, s'est donné pour mission d'abord de lutter contre la marchandisation du monde associatif. C'était vraiment le combat originel. Cette tendance que l'on constate malheureusement de manière très très générale, qui pousse les associations vers le marché, qui efface les différences entre les entreprises et les associations. Nous, on considère qu'il faut se battre pour qu'un segment non lucratif de la société civile puisse encore avoir droit de citer. Et c'est pas si facile, et de manière générale, on essaye d'identifier ce qui compose le scénario de l'affaiblissement du monde associatif pour au contraire bâtir le scénario du renforcement du monde associatif.
Mais justement, pourquoi est-ce que le mouvement associatif s'empare-t-il de cette question de la marchandisation ?
Bah, malheureusement, parce que c'est une lame de fond qu'on subit donc depuis maintenant longtemps. Hein. Le CAC, c'est 2010. C'est au moment où il y a eu un Premier ministre, François Fillon, qui a finalement adapté des directives européennes en droit français. Et donc c'est un phénomène de fond qui vient tout droit en fait de la manière dont l'Europe se construit avec le dogme du marché unique. Et ça a des conséquences énormes et en partie invisibles sur la manière dont sont financées les associations, mais au-delà de ça, la façon dont on les considère et, in fine, la façon dont on considère leur apport politique, puisque nous, ce qu'on essaie de décrire, c'est ce phénomène de prestarisation du monde associatif, et on a coutume de dire que quand on est prestataire, c'est plus difficile d'être protestataire.
Ben voilà une belle formule. Et puis le monde associatif, c'est quand même le lien social. C'est pas quelque chose qu'on vend. On vend pas du lien social, je crois.
Exactement. En fait, on pourrait dire que notre lutte, c'est une lutte contre la réification de l'être humain, sa chosification en homo economicus. On est heureusement beaucoup plus que ça. Mais c'est pas si évident d'arriver à mener ce combat-là, parce qu'en fait, les forces néolibérales en présence sont à la fois de plus en plus puissantes et puis surtout de plus en plus autoritaires. Mais on va peut-être parler de ça.
Oui, et puis là, on voit bien qu'on est au cœur de cette problématique qui est posée. Hein. On parle d'élections. Ben là, on voit à quoi ça. Quel est le sens, effectivement, de ces élections. Mais alors, les créateurs du CAC, qui étaient-ils et actuellement, comment le décrire, enfin, physique, pratiquement?
Ben, une manière de décrire le CAC au début et encore maintenant, c'est de décrire un petit peu la manière dont brasse à travers ce collectif toute une série de militants venus d'horizons différents. Au départ, au CAC, on trouve des gens qui viennent plutôt du secteur de l'éducation populaire, la Confédération des foyers ruraux, on trouve des gens qui viennent des régies de quartier, on trouve des gens vraiment d'horizons extrêmement différents. Et il manquait, je pense, un espace particulièrement combatif pour les réunir, et c'est encore le cas maintenant. Donc 16 ans plus tard, on trouve des personnes qui viennent du planning familial, qui viennent de la CIMAD, qui viennent d'Attaque, de la LDH éventuellement, et donc en fait on voit que c'est un creuset commun transsectoriel, et ça c'est particulièrement important en fait.
Absolument, et je crois savoir que vous faites tous les trimestres une journée entière, vous appelez ça la PAC, hein, tu vas nous expliquer, mais qui est vraiment un lieu de rencontre de toutes sortes d'acteurs, de militants, tu peux nous en parler?
Oui, alors la PAC, c'est pour Assemblée Permanente des Associations Citoyennes. Ça marque d'abord la volonté d'avoir un travail continu, permanent, et je dirais de la suite dans les idées, dans la continuité, dans les thématiques que l'on aborde. Et donc ces APAC, c'est des journées qui ont la particularité d'être vraiment ouvertes à tous, et on essaye de favoriser la participation en faisant des temps à la fois en présentiel et en visio, puisqu'on est un collectif national, et donc il faut bien qu'on puisse permettre à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de venir sur Paris ou ailleurs, quand c'est ailleurs qu'à Paris, de participer. Alors c'est des journées temps fort où ressurgissent des thématiques particulièrement importantes. Là, en l'occurrence, le 10 avril, c'est notre prochaine APAC, et ça sera sur les postes municipaux, puisqu'on en parlait. Enfin, en partie, il y a aussi d'autres sujets, notamment autour de la neutralité.
Super, super. Et alors, on va en parler bien sûr tout au long de l'émission, mais peut-être peux-tu nous dire aussi le sens exactement de quand on parle association, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce que ça représente, une association?
Alors, nous, on a tendance à pas rester stricto sensu figé sur l'association avec un statut juridique, d'autant que certains d'entre nous disent souvent que statut n'est pas vertu. Donc effectivement, on trouve de tout dans le monde associatif, le meilleur et parfois le pire. Et donc en fait, nous, on désigne plutôt par association un mouvement qui est le mouvement associationnisme, qui fait référence à la manière dont ont été décrits début 19e siècle, alors dans la lignée du mouvement ouvrier, mais pas que, toute une série d'initiatives citoyennes qui avait la particularité, et ça c'est quand même important de le noter, puisque le sujet des libertés associatives est redevenu prégnant, début 19e siècle, ces initiatives avaient la particularité, depuis la loi Le Chapelier en 1791, d'être illégales. Et donc, en fait, on s'aperçoit que cette interdiction était intenable, parce qu'il fallait bien faire face aux duretés de la vie, telles qu'elles sont décrites par exemple dans Victor Hugo, dans Les Misérables, et donc il fallait bien s'associer, s'entraider, et donc ça crée un ADN solidariste, et ça crée surtout un creuset commun qui s'est ensuite développé en créant finalement ce qu'on retrouve dans les familles de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire les coopératives, les mutuelles, les associations en 1900 évidemment, et puis aussi toute une portée syndicale en fait, et de revendications à ces actions.
Voilà, donc vous faites partie d'ailleurs de l'écologie, de l'économie sociale et solidaire, hein, de l'ESS, mais on voit bien votre rapport direct avec le mouvement social, mais on va en reparler. Et alors, justement, puisqu'on est dans une émission qui est préparée avec la LDH, qui est prévue, eh bien, on a convenu de te donner la parole pour un édito particulier. Donc, à toi la parole, Jean-Baptiste, pour 2-3 minutes.
Oui, ça risque d'être court parce que les temps étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire emprunt d'urgence, j'ai pas forcément eu le temps de préparer énormément de choses, mais peut-être en fait souligner l'importance de continuer un rôle de lanceur d'alerte, je pense, pour le milieu associatif. C'est un peu ce que le CAC a cherché à faire depuis le tout début, en dénonçant donc cette fameuse circulaire Fillon, et en dénonçant tout au long de son parcours de vie depuis 16 ans, toute une série... J'allais dire de saloperies qui nous sont arrivées sur la gueule, pour parler poliment.
Quelques exemples.
Par exemple, on peut penser aux contrats un pacte social qui ont été promus par beaucoup de gens, y compris par des forces de gauche, et qui en fait ont eu pour effet d'accélérer en fait la marchandisation. C'est des sortes de partenariats public-privé, et tout ça a contribué à dépolitiser en fait le monde associatif. Il faut continuer en fait à faire ces lancements d'alerte, continuer à se battre contre ce processus liberticide. Je pense notamment au fait de jamais lâcher sur la demande d'abrogation du contrat d'engagement républicain, et puis continuer d'alerter, c'est peut-être mettre le doigt sur des choses qui arrivent de manière beaucoup plus invisible mais qui sont très très inquiétantes. Alors notamment, je pense à un sujet particulier, il est technique mais je pense qu'il faut quand même qu'on le mentionne, c'est la règle des minimis et la manière dont ça va s'appliquer en 2026.
Alors, quelque chose de technique là.
C'est technique mais c'est fondamental, ça concerne la manière dont on considère les financements au regard des règles européennes. Et justement, il y a des nouvelles règles qui vont finalement être une arme de destruction massive du monde associatif, puisque ça va continuer à en accélérer, mais puissance 10 000, à mettre les associations dans le même panier que les entreprises, et donc à continuer en fait ce travail de sable de dépolitisation des initiatives citoyennes.
Ouais, donc c'est vraiment très très important. Et effectivement, on voit bien à travers cette idée de lancement d'alerte, à travers cette idée vraiment de destruction quand même de ces capacités de lien, hein, de solidarité, hein, sociale que tu décris, on voit bien qu'à travers ces attaques, on est vraiment dans le monde aussi de la politique, quelque part. Hein, on n'est pas loin de ces problématiques électorales. Mais on a choisi de ne pas s'entrer directement sur cette problématique électorale. On en reparlera un peu plus tard.
Petite pause, fréquence droit sur Aligre FM. Nous sommes avec Jean-Baptiste Jobard, Didier Racinet et Nicolas Bigard. La pause, c'est tout de suite.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, les navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc.
Bernard Lévy et les mains d'or, vous êtes sur Fréquence Droit, à l'IGFM. Fréquence Droit, une émission spéciale aujourd'hui, le mouvement associatif, quel rôle dans la situation actuelle? Nous sommes avec trois invités, Jean-Baptiste Jobard, Didier Racinet et Nicolas Bigard. Didier, on va se poser une question, c'est la question qui sous-tend cette émission. Que serait une France sans association? Est-ce que vous avez une réponse?
C'est une très bonne question. Et c'est vraiment la question clé, finalement. Mais je crois, Jean-Baptiste, que tu nous avais alerté du fait que une journaliste de France Inter, Corinne Audouin, avait fait une chronique sur ce thème.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonsoir Corinne.
Bonsoir Eric.
Avec vous ce soir, on va se projeter dans le futur. Vous avez imaginé une dystopie où il n'y aurait plus du tout d'associations en France.
Ça donne quoi ? Ça commence par la petite enfance. 20% des crèches de France aujourd'hui sont associatives. Ça ferait donc 4000 crèches en moins, moins de modes de garde pour les enfants. D'après l'OCDE, ça a des conséquences sur le travail des femmes et sur la natalité. Direction l'école ensuite. En zone rurale, 80% des centres de loisirs sont délégués à des associations, donc plus de garde d'enfants après 16h30, voire après 15h. Votre enfant fera de la musique ? Pas évident sans les 1300 écoles de musique associatives de France. Pour le théâtre amateur, la découverte arrive parfois au collège. Attrape Alain Degois et son association Déclic Théâtre a le premier fait monter sur les planches un certain Jamel.
C'est la première personne qui a cru en moi. Clairement, c'est quelqu'un qui est venu avec une vraie proposition, c'est de faire de l'improvisation théâtrale et ça a diamétralement changé ma vie. Attrape, dans cette ZEP au collège Courbet, c'était une bouée de sauvetage. Et c'est vrai que ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait un tissu associatif extrêmement fort. Il y avait un tissu social qui nous permettait de nous transcender, parce que si tu avais envie de faire du théâtre, tu avais l'improvisation théâtrale à ta disposition. Si tu veux faire de la musique, tu avais des antennes à ta disposition. J'ai été voir Cobert grâce à la MJC Charlie Chaplin. Tout ça, ça m'a forgé, ça m'a vraiment nourri.
Alors imaginez une France sans Jamel, et qui sait, sans Kylian Mbappé, repéré à l'AS Bondy, ni Laure Manoudou. Elle a fait ses premières brasses au club de natation d'Ambérieux en Bugey, sans oublier bien sûr les centaines de milliers d'enfants privés de terrains de sport.
Là vous nous parlez de la jeunesse, Corinne, et que serait la vie, une vie qui vous réserve des coups durs, sans les associations? On peut se sentir parfois très seul.
On va prendre l'exemple des femmes victimes de violences. Les subventions ont baissé de 6,7 millions d'euros cette année aux associations qui les accompagnent. D'après la Fondation des femmes, ça représente 6200 femmes qui ne seront pas aidées en 2025. Et des vies perdues, sans doute. Écoutez Angela, elle a 37 ans, elle est suivie par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles à Soissons.
Je vivais une séparation très conflictuelle avec mon ex-mari. Il en est venu à essayer de faire l'impensable. L'assistante sociale de la gendarmerie m'a invité gentiment à venir chez le CDFF de Soissons afin de rencontrer mon éducatrice pour pouvoir voir avec elle les possibilités d'hébergement qui pouvaient m'être offertes pour me sécuriser moi et mes enfants.
Sans le CIDFF, est-ce que vous auriez pu faire toutes ces démarches toute seule?
La veille, j'étais déjà en train de faire des vidéos pour dire au revoir à tout le monde au cas où il m'arrivait des choses. Donc non, sans le CIDFF, j'aurais pas pu. Il leur faut des subventions pour continuer à bien tenir et permettre à d'autres femmes victimes de pouvoir s'en sortir, parce que on s'en sort pas comme ça.
Angela, rencontrée par Benjamin Illy pour France Info. Alors on l'a dit, l'aide alimentaire, la réinsertion professionnelle, la sauvegarde du patrimoine local, tous ces pans de la société et d'autres reposent sur le tissu associatif. Leur disparition, c'est dans la France rurale qu'elle se ferait le plus sentir. À Sainte-Maure de Touraine, en Indre-et-Loire, l'association Ciné-Off apporte le cinéma et bien plus. C'est un reportage d'Eva Kling pour France Culture.
Juste en face du clocher, sur les hauteurs de Sainte-Maure-de-Touraine, une petite pancarte noire. Dessus, le mot « cinéma » peint en blanc. Pauline pousse la porte le plus souvent que possible.
C'est très pratique qu'il soit toujours là, pour éviter d'aller dans les autres villes, de rester proche de chez nous. Ma belle-fille va tout le temps au cinéma à Tours, elle doit payer 12, 13.
C'est deux fois plus cher qu'à Sainte-Maure, pratique, économique, mais aussi local. Le cinéma est capital pour les liens sociaux en zone rurale, explique Claudie, la présidente de la salle de Sainte-Maure.
Par exemple, le dimanche après-midi, les spectateurs nous le disent souvent, il n'y a que cette offre à Sainte-Maure. Les bars sont fermés, il n'y a pas de bowling, de dancing, il y avait un dancing, il a fermé. Donc aujourd'hui, le cinéma, c'est vraiment la sortie.
Voilà, ça s'appelle Ciné-Off. Alors sans les associations, l'autre modèle, c'est celui d'une économie entièrement marchande. Et justement, c'est un autre choix de société.
Merci de ce regard, Corinne Audouin.
Corinne Audouin de France Inter, l'importance des associations dans la vie des Français, un problème qui est bien posé. On revient vers vous, Didier Racinet.
Et effectivement, tellement bien posé qu'on se demande si on peut continuer un petit peu commenter, mais c'est quand même la question que je vais te poser, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu dis de cela?
Oui, moi je trouve quand même cette petite pastille audio, elle est super, hein, elle est vraiment très très pédagogique, très très forte. Et elle montre à la fois, je pense, l'impact, j'allais dire, macro du monde associatif. On a des chiffres, hein, 20% des crèches associatives, c'est dit, etc. Et puis aussi l'approche à hauteur d'homme ou de femme, là, je pense, à ce témoignage. Moi, je pense que, en gros, ce que ça illustre quand même, puisque la question, c'était qu'est-ce que serait une société en France sans association, ça serait une société qui tend vers l'Amérique de Trump ou l'Argentine de Milley. En fait, c'est quand même le projet néolibéral. C'est Thatcher qui disait, alors non seulement elle disait « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative, mais elle disait « il n'y a rien qui ressemble à une société ». C'est-à-dire que pour ce projet néolibéral, il n'y a que des individus atomisés. Voilà. Et ça fait penser, nous, on a en tête souvent la définition du néolibéralisme par Bourdieu, qui dit que c'est une utopie, un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur. Et ces structures collectives, en fait, elles peuvent être assez différentes. C'est les associations, mais pas seulement, c'est les syndicats, etc. Et c'est même, on peut dire, les services publics, parce que nous, un de nos leitmotifs aussi, c'est de dire que pour sauver le monde associatif, il faut lutter en même temps contre le démantèlement des services publics. Et ce qui est en jeu, c'est cette extension continue du domaine du marché contre l'action publique de manière générale, l'action associative spécifiquement, mais l'action publique de manière générale, et donc une capacité à faire encore ensemble.
Voilà. Et de fait, on connaît la tendance aussi de ce service public à justement se désengager du service public, à sortir de son rôle. On voit la pauvreté du service public souvent, hein, j'exagère, hein, je ne veux pas généraliser, mais de plus en plus les difficultés d'accès, ne serait-ce qu'aux droits les plus élémentaires. Et je pense aussi aux immigrés, je pense aux jeunes et autres. Donc une société sans association, une France ainsi, ce serait pratiquement une France invivable. Enfin, et pour tout cela, donc, ce mouvement associatif, qui, tu l'as dit tout à l'heure, est une part conséquente, importante de la vie, non seulement de la vie sociale, mais du mouvement social, syndical, de l'action. Qu'est-ce que tu pourrais, pour tout cela, pour tout ce que vous développez, tout ce mouvement associatif, qu'est-ce que vous recevez en retour?
Alors,
de l'État, notamment.
Ah, de l'État.
Et de l'État.
Alors, ça dépend de quel État, parce qu'on parlait de Bourdieu, et il a développé cette théorie qu'il y a la main gauche et la main droite de l'État, et je pense que c'est très très juste. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la main gauche qui est un peu, on va dire, le côté féminin de l'État, avec le travail social, avec le travail dans la santé, etc., et tout ce qui est en fait la prise en charge du care de manière très très générale, et puis la main droite qui est à la fois la main régalienne, donc la prison, la justice, l'intérieur, etc., et puis aussi Bercy, quoi. Voilà. Et donc il y a un combat de titans entre la main gauche et la main droite qui malheureusement est de plus en plus largement gagné par la main droite, avec...
Mais est-ce que c'est pas un peu la même main?
En tout cas, ça fait penser à la phrase qu'on entend souvent quand on l'ouvre un peu, j'allais dire, qui est « il faut pas mordre la main qui nous nourrit ». Qu'elle soit à la gauche ou à la droite, il faut la mordre, en fait. Parce que c'est ça, la démocratie, finalement. C'est-à-dire, c'est la capacité à avoir une analyse critique de la situation et être en désaccord, y compris avec les financeurs. Et donc, ce que ça désigne, en fait, le processus de marchandisation, c'est profondément une sorte de phénomène d'allégeance du monde associatif qui doit être aligné pour continuer à survivre, aligné politiquement sur un projet qui n'est pas le sien.
Voilà. Parce qu'en fait, l'État... Et pour l'instant, hein, actuellement, dans sa fonction, il y a aussi bien de la justice, il y a aussi bien de la police, et aussi bien des services sociaux. Donc c'est une seule et même entité. Mais précisément, qu'est-ce que vous donne cet État pour l'ensemble de ces services qui sont rendus, enfin qui apportent à la société quelque chose? Tu évoques, hein, souvent l'idée du fait qu'il y ait une demande d'allégeance du mouvement associatif vis-à-vis de l'État.
Ben, c'est-à-dire qu'on supporte quand même de moins en moins les voix dissonantes. Et on évoquait le contrat d'engagement républicain. Le contrat d'engagement républicain vient parachever en fait un processus assez autoritaire, liberticide en fait. Et on voit bien avec la manière dont il est utilisé, ce contrat d'engagement républicain, que c'est pour mettre au pas. Nous, à contrario, on a en tête d'autres types de dispositifs, et notamment ce qui existe en Belgique, avec le décret qui finance les associations d'éducation permanente et qui, en fait, finance des contre-pouvoirs. Et ça devient quasiment impensable en France, en fait.
Voilà. Je crois d'ailleurs que vous travaillez sur les réflexions autour du financement du mouvement associatif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des pistes qui se dégagent ?
Ouais, en fait, ça, c'est une question absolument cruciale parce qu'on voit bien que l'étau se resserre dans tous les sens de cette expression. Et en fait, il faut voir comment est-ce qu'on peut sortir de cette structure du financement du monde associatif qui nous conduit à une impasse, c'est-à-dire qui conduit à l'affaiblissement du monde associatif. La première chose par rapport à ça, je pense que c'est de dire qu'il faut récupérer l'argent. Il y a de l'argent, l'argent de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, etc. L'argent du ruissellement qui ne fonctionne pas, il faut le récupérer, c'est la première chose. Et après, là, dans un article récent, on a identifié 4 verrous qu'il faut réussir à... Il faut s'attaquer à ces 4 verrous. Le premier verrou, on en a parlé rapidement, c'est le cadre européen qui met en concurrence et qui empêche en fait de plus en plus la subvention. Mais il y a d'autres verrous. Et notamment, je pense qu'il faut qu'on revisite la manière dont est défini en France l'intérêt général, puisque le seul détenteur de cette définition de l'intérêt général, c'est Bercy. C'est une exception fiscale, en fait, de l'intérêt général. Tant qu'on n'a pas réussi à démocratiser qu'est-ce que l'intérêt général et donc qu'est-ce qui mérite d'être subventionné au titre d'actions associatives, on sera dans une de grandes impasses. Et j'ajoute que la philanthropie ne va pas tout solutionner, puisque on voit très bien aussi cette injonction qui consiste à hybrider les ressources, revoir son modèle économique, ce qui veut dire en fait accepter de voir remplacer l'argent public par l'argent privé. C'est évidemment un leurre, on voit à travers les chiffres dans le temps que c'est toujours moins de 5% en fait le mécénat et le financement privé. Donc on ne s'en sortira pas comme ça.
Mais tu évoquais tout à l'heure les services publics. Et ne crois-tu pas que, justement, c'est en réintroduisant de la démocratie, en réintroduisant une démocratie réelle, c'est-à-dire une démocratie, je dirais, à la base, que l'on peut construire quelque part, identifier les besoins, savoir où sont les... C'est peut-être justement, non seulement en critiquant Bercy, mais aussi en redonnant la parole aux associations, au monde populaire, que l'on pourrait exprimer justement les besoins, savoir ce qu'il est nécessaire d'avoir.
Alors c'est exactement le projet qu'on poursuit. Alors c'est très 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 difficile, mais c'est la raison pour laquelle, par exemple, on a lancé les soulèvements associatifs. Les soulèvements associatifs, c'est une tentative de partir de l'expression des premiers concernés sur ce qu'ils vivent, sur leurs difficultés, mais aussi sur ce qu'ils réussissent, pour construire un agenda revendicatif. Et donc, ça part finalement du même principe que les cahiers de doléances, sauf que là, on a appelé ça des cahiers de doléances et de revendications. Et en fait, il faut que les solutions pour le monde associatif viennent du monde associatif lui-même. Mais c'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
Vous voyez, là, on voit là, très clairement qu'on est là aussi au cœur de la politique. On n'est pas loin des élections, mais les élections ne résolvent pas tout. C'est par la lutte au quotidien qu'on peut aussi faire avancer les choses. C'est ce que vous faites au CAC et dans ce mouvement associatif. Il y a un point qui mérite un tout petit peu un peu d'éclaircissement, c'est le fait que vous subissez aussi la loi des appels d'offres de plus en plus fréquents, qui en fait sont des moyens un petit peu pour canaliser l'action, sans que vous n'ayez justement vous-même à la choisir avec les populations avec lesquelles vous travaillez.
Oui, alors ça, c'est un phénomène qui a été particulièrement bien mis au jour par le rapport du CESE en mai 2024.
Conseil économique et social.
Exactement.
Et social et environnemental.
Voilà. C'est la troisième chambre constitutionnelle, celle de la société civile en somme. Et donc, ils ont mis l'accent sur la manière dont il y avait un lien donc, entre ces appels à projets, la manière dont on finance les associations et l'urgence politique, puisque le titre, c'était le financement des associations, une urgence politique. Ce qu'on peut retenir de ce rapport CESE, c'est qu'il remet sur le devant de la scène l'importance de relégitimer la subvention, mais pas n'importe comment, en la démocratisant. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on porte aussi beaucoup. Comment est-ce qu'on peut permettre d'avoir des instances collégiales d'attribution de la subvention qui permet de sortir de certains écueils qu'on connaît très bien, le fait du prince, le clientélisme, etc. Et donc, pour nous, c'est un enjeu particulièrement important pour les mairies qui seront en place à partir du 22 mars, c'est ça ?
À partir du 22 mars, deuxième tour des élections municipales. J'ai une question quand même, avant de poursuivre notre conversation. Vous parliez de l'Europe, vous parliez de Bercy. Ce sont des citadelles qui sont imprenables. Quoi. Il faut espérer, on peut espérer les contraintes.
Le 13 juillet 1789, on pensait que la Bastille était imprenable.
C'est vrai.
Mais en tout cas, il y a des verrous extrêmement forts. J'attire quand même l'attention des acteurs associatifs qui peuvent nous écouter sur un rapport qui est ancien, puisqu'il a déjà 10 ans du HCVA. Donc le HCVA, c'est le Haut Commissariat à la Vie Associative, et qui décrivait des manières, en fait, de contourner la façon dont Bercy a la main sur la définition de ce qu'est l'intérêt général. Je pense que ça serait bien d'exhumer ce rapport et de voir ce qu'on peut en faire encore aujourd'hui.
J'espère que tout le monde va bien. On a de la chance, aujourd'hui on a du soleil sur Paris. Quel miracle sur ce mois d'octobre, quel miracle. Mais non, c'est pas un miracle, c'est normal parce qu'on s'est rassemblés aujourd'hui pour une belle et honorable cause. Donc déjà merci à tous ceux qui sont présents.
Je le disais, la situation elle est inédite, donc on se retrouve à faire ça, non, parce que ça va pas. Enfin, c'est pas non plus pour le plaisir d'être ensemble, même si c'est toujours un plaisir d'être ensemble. Ça va pas et ça va pas parce que la situation financière dans laquelle on se trouve fait que ça ne tient plus parce que les charges ont augmenté, ça ne tient plus parce que les ressources ont baissé. Et donc c'est pour ça, en responsabilité, on a décidé de ne pas rester silencieux, de demander aux uns et aux autres de se rassembler massivement pour faire face, pour faire front et pour essayer de créer un rapport de force.
Ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que toutes les associations...
Nicolas Bigard.
Ce que nous entendons là, c'est un rassemblement. Place Stalingrad à Paris, le 11 octobre 2025. Un rassemblement à l'initiative du mouvement associatif, intitulé « Ça ne tient plus ». Afin de dénoncer les restrictions budgétaires et les difficultés financières, mais surtout... plus largement, ce que certains appellent un véritable carnage associatif. Ça ne tient plus, ça a été plus de 350 rassemblements un peu partout en France. Des mobilisations, il y en a bien d'autres, comme le soulèvement associatif avec le CAC, comme 1001 territoires qui rassemblent une quarantaine d'organisations. Les revendications qui sont portées concernent des millions de personnes en France, des millions de bénéficiaires, et elles questionnent en profondeur notre modèle démocratique. Cependant, tout cela semble passer largement sous les radars médiatiques. Le modèle associatif brûle et les médias regardent ailleurs. Il faut dire qu'il règne aujourd'hui dans le paysage médiatique français une forme d'injonction silencieuse mais écrasante. Les médias indépendants devraient être le contrepoids de l'empire bolloréen, la digue héroïque censée sauver le réel face à l'avalanche de désinformation. Les voilà investis d'une mission épique, maintenir debout ce qui reste de l'espace démocratique en répondant pied à pied aux vérités alternatives déversées quotidiennement par un groupe média réactionnaire. Mais à jouer ce rôle, les médias indépendants ne deviennent-ils pas, paradoxalement, les idiots utiles de la farce bolloréenne ? En s'aventurant sur ce terrain, n'est-ce pas accepter un agenda et des thèmes dictés par celles et ceux que les médias indépendants pensent combattre ? Peu à peu, un récit unique s'impose, dans un cadre binaire, saturé, où toute pensée doit se ranger dans l'un des deux camps. Pendant ce temps, sur les territoires, dans les vallées, les bourgs, les villages, les pays, un « nous » s'invente, un « nous » qui renverse les montagnes d'aquabonisme. Des mobilisations associatives se multiplient, des initiatives citoyennes et démocratiques fleurissent, expérimentent, rassemblent. Elles existent, elles fonctionnent, produisent du commun et font bien souvent leurs preuves concrètement, déploient leur pouvoir d'agir ici et maintenant. mais elles restent invisibles. Elles restent invisibles. Les médias nationaux n'en font pas ou peu état, et c'est plus gênant encore, les médias indépendants, les plus visibles, peinent à leur donner la place qu'elles méritent. Pourtant, le pays est couvert d'un maillage médiatique local d'une richesse exceptionnelle. Radios associatives, web médias de proximité, titres coopératifs, journaux locaux, revues citoyennes. Des médias discrets, souvent précaires, souvent bénévoles, profondément ancrés dans les territoires, documentent cette vie démocratique au plus près. Un réseau dense, vivant, déjà là, mais que personne ne relaie à l'échelle nationale. L'échelle locale, certes, est moins sexy que le clash national permanent. Il est plus rentable de commenter au quotidien les dérapages médiatiques des têtes de gondole de l'empire médiatique bolloréen que de s'atteler à mettre en lumière celles et ceux qui agissent pour le bien commun et qui portent le projet d'une société solidaire, culturelle, écologique, démocratique. Il est plus glorieux, certes, de se poser en contrepoids médiatique face aux montées des réactionnaires que de donner à entendre les voix qui réclament depuis des années un vrai débat démocratique. Cahiers des doléances, états généraux des communaux, soulèvements associatifs qui, malheureusement, restent inaudibles. Ces appels et mobilisations ne figurent ni en une de nos quotidiens, ni en page d'accueil de nos sites d'info. À 30 jours des échéances municipales, toutes et tous restent invisibles. Alors, j'ai une question. Alors, j'en ai mille, mais faut bien choisir. Comment passer d'une logique de mobilisation défensive, telle qu'on a pu entendre, ça ne tient plus, à une stratégie offensive de récit, capable d'imposer les associations comme un sujet politique central dans l'espace médiatique?
La réponse de Jean-Baptiste Jobard, du CAC.
C'est une question clé, évidemment. La réponse est pas simple, parce que il faut faire les deux, c'est-à-dire on est obligé d'être sur la défensive, on est obligé de se défendre vu le niveau d'attaque, et en même temps, effectivement, il faut absolument qu'on embarque en fait sur un imaginaire souhaitable et quelque chose qui donne un certain élan en fait. Donc voilà, juste sur la manière dont quand même il faut se défendre, il y a une actualité là, c'est ce qu'on a produit avec l'Observatoire des libertés associatives sur la question de la neutralité. La question de la neutralité, on a vu que cette notion est de plus en plus utilisée pour neutraliser en fait l'action politique des associations. Et l'enjeu en fait, c'est de voir comment est-ce qu'on peut rassurer juridiquement les associations en leur disant qu'elles n'ont pas à être neutres. C'est la conclusion principale de ce rapport. Et il faut même aller plus loin, c'est en disant que c'est parce qu'on ne sera pas neutre qu'on va réussir à combattre le Rassemblement national, en fait, et l'extrême droite de manière générale. Donc voilà, moi je pense que pour arriver à aller contre ce mouvement qui déplace le curseur de la vie politique toujours plus à droite, il faut qu'on arrive à trouver les fenêtres d'Overton à gauche, et donc peut-être qu'on explore les déjà là du monde associatif, et ce qui est déjà inventé, ce qui demande qu'à être généralisé. Et qu'effectivement, peut-être que à ce moment-là, le rôle des médias indépendants, mais pas que, je pense aux services publics, etc., c'est aussi de donner un peu de vent dans les voiles à des dynamiques qui existent déjà. Par exemple, c'est les municipales là. Qui sait le nombre de listes? Je crois qu'on est à 700 listes citoyennes qui se présentent partout. Qui connaît le travail formidable d'Action Commune et de Fréquence Commune qui ont développé en fait le communalisme en France de manière inédite sur ces dernières années? C'est un véritable point aveugle. Et pourtant, c'est déjà là. Nous, pour finir, on va essayer de prendre notre part avec ce récit en disant que de la même manière que s'invente plein de projets de sécurité sociale sur l'alimentation, sur le logement, sur le funéraire, sur la culture, sur plein d'enjeux cruciaux, il faut qu'on invente la sécurité sociale des associations et qu'on soit en capacité de réembarquer sur un récit d'un déjà là et d'un déjà fait, puisque de 45 à 67, on a quand même réussi à créer ce commun hors marché, hors état. Et donc, ce que nos prédécesseurs ont fait, on devrait être capable, malgré les vents contraires, d'imaginer des choses de ce type-là. Quoi.
Nous sommes en pleine campagne électorale. Alors, qu'est-ce que vous dites aux partis politiques? J'imagine que vous essayez de les joindre, de les voir.
Qu'est-ce que vous dites ?
Alors justement, on essaie d'articuler un peu un double discours défensif et contre-offensif. Sur le défensif, en fait, on a développé toute une série de propositions sur les villes-refuges pour les libertés associatives, puisqu'on pressent que malheureusement, il va y avoir besoin d'un tissu comme ça sur les territoires de résistance et de résilience, et un tissu de mise en lien. Donc ça, c'est plutôt sur le côté défensif. Et puis sur le côté contre-offensif, en fait, on a toute une série de propositions pour réinventer en fait la démocratie associative locale. Je parlais des commissions d'attribution collégiale de subventions. On peut parler aussi du fonds d'interpellation citoyenne, du droit d'interpellation. Et en gros, c'est faire confiance aux citoyens dans leur capacité à faire de la politique. Par exemple, on vient de travailler avec l'association des cahiers pour décider et pour agir, qui essaye de repartir de ce qu'il y a dans les cahiers de doléances, puisqu'on en parlait, pour construire un agenda politique. Et là, c'est vraiment le bon moment, puisque le mandat va commencer, et c'est des processus de longue haleine. Là, y a un film formidable qui circule, on pourra peut-être mettre la référence quelque part, qui montre ce qu'ils ont fait à l'Île-Saint-Denis dans le 93. C'est des expériences qui ne demandent qu'à s'aimer, en fait.
La référence mais sera est-ce sur que... le site de, d'Aligre FM. Oui, Didier Racinet.
Pardon, merci. Justement, en parlant de discussion avec les partis, on sait que c'est la période. On sait aussi que c'est la période où ils aiment bien discuter, ils arrivent à discuter, ils vont faire des tas de promesses. Mais
c'est le moment accessible.
Est-ce que ce n'est pas précisément dans ce que vous faites largement avant de ce que vous faites ? Est-ce que ce n'est pas dans la construction, je dirais, permanente quelque part d'un rapport de force, d'une capacité d'exercer, d'imposer aussi quelque part un pouvoir, que ça se construit. Je pense récemment aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes avaient réussi, si vous voulez, à prendre en main, à imposer aussi un petit peu leurs agendas, leurs discours, en demandant précisément qu'on arrête un peu de croire en la vertu phénoménale des élections, mais en donnant effectivement au mouvement lui-même une capacité d'exercer lui aussi un petit peu son pouvoir. Et moi, je connais bien une petite ville qui s'appelle Commercy. J'ai interrogé d'ailleurs récemment une personne qui a fait une thèse sur le mouvement des Gilets jaunes à Commercy. Cette personne s'appelle Sixtine Van Outrive, et vous pourrez lire son texte dans la revue Alters Media. Écoutez aussi son interview dans une autre radio. Mais elle explique très clairement que à Commercy, s'est construit, au moment même des élections, un mouvement qui posait que c'était l'Assemblée qui s'était rassemblé, qui s'était réuni, qui allait guider, en fait, les personnes qui auraient pu être élues à ce moment-là dans leur, justement, dans leur proposition. Voilà. Que penses-tu un petit peu de tout ça ?
Oui, en fait, c'est exactement ce qui est décrit dans le film dont je parlais, là, sur des assemblées décisionnaires.
Ah, oui.
Et on a quand même des exemples dans le mandat récent, y compris sur des grandes villes. La ville de Poitiers a fait des assemblées décisionnaires, y compris sur des sujets qui étaient a priori pas les sujets prédominants pour la majorité écolo. Ils ont fait, par exemple, une assemblée décisionnaire sur les questions de sécurité, etc. Et en fait, on voit que ça porte ses fruits. On pourrait même dire que ce type de processus délibératif dilue en fait le fascisme d'une certaine manière. Enfin, on pourrait développer. En tout cas, il y a un enjeu autour de la démocratie continue. Ça fait penser à une initiative, nous, à laquelle on participe et à laquelle on croit beaucoup, qui est Mérimi, le pacte pour la transition. En fait, le pacte pour la transition, c'est toute une série de mesures qui viennent des enseignements tirés par des associations sur le terrain et qui sont présentés à des candidats. Mais ce n'est pas présenté juste au moment de la campagne, en fait. Le principe, c'est de dire aux candidats, voici les engagements qu'on vous propose de prendre, et est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on se revoie, par exemple, tous les ans, pour faire le point sur la réalisation de ces engagements. Et en fait, ce type de dispositif, finalement, de démocratie continue, et de pas lâcher, en fait, les politiques et... Y compris d'ailleurs en enregistrant, ça c'est basique, mais en enregistrant sur des web radios, sur des web télé, etc., les rencontres avec les candidats pour les confronter ensuite au fur et à mesure à leurs promesses. Je pense que c'est vraiment déterminant. Et mine de rien, il y a un savoir-faire qui s'accumule dans ce domaine.
Alors justement, qu'est-ce que vous faites de façon spécifique à Paris ? Bon, Paris n'est pas toute la France, mais Paris, ce n'est pas rien. Est-ce que c'est plus compliqué qu'ailleurs, justement à cause du projecteur médiatique qui se concentre sur la capitale ?
Oui, alors peut-être que c'est plus compliqué qu'ailleurs Paris, mais peut-être que si on réussit des choses à Paris, il y a un effet d'entraînement qui n'est pas négligeable. Avec le CAC, on fait partie du Conseil parisien des associations et par exemple, on a réussi à faire passer une motion au Conseil municipal dans le cadre de ce CPA, Conseil parisien des associations, qui était importante parce que justement, ça consistait à dire, enfin, à ce que la majorité parisienne affirme que ce qui était important, ce n'était pas le contrat d'engagement républicain avec la défiance que ça induit envers le monde associatif, mais plutôt la charte des engagements réciproques. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à gagner un certain nombre de choses à Paris. Typiquement, si Paris demain, à l'instar de ce que Rennes a fait ou que Grenoble a fait sur le mandat précédent, arrive à démocratiser les décisions d'attribution de subventions par ces instances collégiales qu'on appelle de nos voeux, je pense qu'il y aura un effet d'entraînement pas du tout négligeable à prendre en compte pour que d'autres villes suivent, quel que soit le bord politique d'ailleurs.
Vous écoutez Allègre FM 93.1.
Libération, musique, orchestra, c'est ce que vous venez d'entendre. Charlie Haden, vous êtes sur Allègre FM, fréquence droit. La parole, on va la donner à qui veut la prendre. Didier Racinet.
Très rapidement, peut-être quelques mots encore de l'action de CAC lui-même. Je crois que vous avez émise une dizaine de propositions. Peut-être quelques mots, peut-être pas décliner tout. Vous travaillez aussi sur un projet d'émission de radio, peut-être en rapport d'ailleurs avec le moment. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît ?
Oui, alors effectivement, on a plein de propositions parce que justement, on essaye à chaque fois d'avoir une critique de la situation, mais de dire qu'on ne veut pas ça parce qu'on préférerait ça. Donc de faire l'effort de définir en fait la manière dont on pourrait travailler autrement, voilà, que ça soit sur ces enjeux de la marchandisation, sur la manière de co-construire l'action publique, sur la façon de faire face à cette répression des libertés associatives. On a plein de propositions différentes. Mais cela dit, je pense que c'est important ce projet en fait autour de la radio, parce que ces propositions, en fait, elles doivent être mises à l'épreuve en permanence des acteurs de terrain. Et puis surtout, on doit construire la capacité à ce que les propositions de demain puisse être actualisée et développée par ces acteurs de terrain. Donc nous, cette plateforme radio, en fait, c'est dans la droite ligne de cet axe directeur qu'on a, qui consiste à dire il faut que les solutions pour le monde associatif viennent du monde associatif, et la première étape, c'est de donner la parole à ce monde associatif. Donc effectivement, il y a ce projet qui est assez prometteur, en fait, sur pas mal d'aspects, et y compris sur la capacité qu'on aura peut-être à donner la parole à des associations qui sont traditionnellement un peu moins entendues.
Tout à fait.
Et de le faire avec des radios associatives.
Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant.
On arrive sans doute un petit peu vers la fin de l'émission, mais je voulais te demander un petit peu en conclusion, quelle vision vous portiez en fait du monde associatif. Imaginons qu'on se projette à 10 ans, comment le voyez-vous ?
En fait, je pense qu'on le verrait beaucoup plus moteur dans la capacité à inventer une démocratie continue. Et aussi une économie plurielle, une économie solidaire. Ça, c'est un truc sur lequel on insiste beaucoup, En fait, on n'aura pas une société plus vivable sans une économie un peu plus humaine et donc une économie solidaire. Et donc, la question, c'est dans quelle mesure l'économie associative participe de cette économie solidaire, la renforce, y contribue, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Et notamment, du coup, le lien entre économie solidaire et démocratie continue. On ne peut pas, en fait, envisager un meilleur fonctionnement démocratique tant qu'il y a autant de gens qui, matériellement, n'ont pas accès au temps nécessaire et aux ressources nécessaires pour participer à cet exercice démocratique. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'intéressait beaucoup à l'occasion de ces municipales, c'est de voir si des candidats allaient proposer une prise en charge matérielle, des indemnités ou, je ne sais pas, des possibilités de garde d'enfants ou des choses comme ça, pour que des gens qui sont éloignés de la chose politique puissent participer à un certain nombre d'instances démocratiques. Malheureusement, j'ai vu assez peu de choses pour le moment, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a devant nous. Il y a un philosophe belge qui nous a beaucoup inspiré, qui s'appelle Luc Carton, qui s'appelait Luc Carton, et qui disait qu'il faut des crédits en citoyenneté. Et tant qu'on n'a pas inventé ça, je pense qu'on va rester dans une impasse assez difficile.
Bon, il me semble effectivement que la clé, une des clés effectivement de la transformation sociale, c'est aussi, mais ça passe par là, hein, cette refondation de la démocratie. Tu parlais aussi tout à l'heure, tout de suite, là tu viens de dire les communs. Vous évoquez l'idée d'une république des communs. Quelques mots à ce niveau-là?
Oui, en fait, alors ça c'est une manière de justement penser la façon dont démocratie continue et économie solidaire peuvent se conjuguer dans un projet de société globale, donc la république des communs. Et c'est aussi cette référence que j'évoquais à la sécurité sociale, c'est-à-dire à la sociale, à la manière de finalement se mêler de ceux qui nous regardent sans l'État et sans le marché. Ça a été possible de 45 à 67 pour la santé, donc ça doit être possible pour d'autres pans de la société sur des enjeux de subsistance et, comme dirait Cynthia Fleury, de manière de mettre en place du care, c'est-à-dire de penser l'interdépendance de nos vulnérabilités. Et donc, cette république des communs, elle est assez porteuse, je trouve, dans l'imaginaire que ça veut dire. Et puis, c'est aussi intéressant parce que il faut commencer par soi-même. Et donc, se demander dans quelle mesure est-ce que son association est un commun et peut fonctionner comme un commun, c'est assez moteur comme manière de penser le fonctionnement démocratique interne. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas rester un impensé pour les acteurs associatifs. Oui.
Une façon peut-être donc de refonder aussi le service public.
Tout à fait.
Le mettre un petit peu à l'image de ce que pourraient être des communs. Une façon aussi de refonder aussi peut-être la sécurité sociale. Mmh. On sait que c'était un grand moment en 45. On sait que ça a un petit peu changé et ça s'est quand même beaucoup, beaucoup transformé. Mais tu évoquais d'ailleurs ce mouvement pour la sécurité sociale, de l'alimentation, de la culture, du logement. C'est des choses qui commencent à bouger. C'est un petit peu ça aussi.
Oui, et puis pour faire le lien avec le texte de Nicolas tout à l'heure, on pourrait se demander, à l'heure des fake news, de la post-réalité, etc., dans quelle mesure est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une sécurité sociale de l'information ? J'ai l'impression que ça va devenir assez crucial, en fait.
Moi, dans la perspective, là, on se place à 10, 15 ans, peut-être plus, mais on essaye de voir ce que c'est, pourrait être ce mouvement, le mouvement associatif. C'est un mouvement social, hein, tu l'as dit, il est dedans. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas encore assez reconnu en tant que tel, en tant que mouvement social. On le voit comme un élément pour passer, je dirais, quelques activités effectivement locales, mais peut-être pas encore comme un mouvement complètement, je dirais, se pensant comme cela. Et ça m'amène aussi à une autre question, c'est son poids politique. Mmh. Donc, quelles seraient un petit peu les dimensions institutionnelles, budgétaires, des moyens d'expression, hein, des moyens politiques hein, aussi, que l'on devrait essayer de construire pour que ce mouvement prenne vraiment une place dans la vie sociale?
Je pense que sur les moyens budgétaires, ça va de pair avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la revalorisation des moyens budgétaires pour pour le service public. Et puis, sur le lien avec le mouvement social, je pense que l'alliance, alors là, c'est le cas aujourd'hui avec des structures qui sont spécialisées, par exemple, dans le droit, comme la LDH, il est crucial, et aussi avec le monde syndical. Je pense que ce qu'on a perdu en route dans l'histoire du monde associatif, c'est aussi ce lien qui est au départ intrinsèque entre revendication associative et revendication syndicale.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un mouvement qui associe précisément ce monde associatif, ce monde syndical, les composantes juridiques, par exemple de la LDH, un mouvement qui façonne ça et qui puisse être vraiment un interlocuteur de poids par rapport à...
Et vous avez 30 secondes pour répondre à cette
question.
C'est
la République des communs qui peut constituer une réponse, je pense, en termes d'horizon à cet enjeu-là.
Jean-Baptiste Chobard, merci. C'est la fin de Fréquence Droit sur Aligre FM, émission spéciale municipale et mouvement associatif. Merci à Didier Racinet, rédacteur en chef d'Alters Média, Nicolas Bigard, membre du collectif Le Moment, et puis Jean-Baptiste Chobard, que vous avez entendu et qui a incarné ce soir le mouvement CAC. Merci à René Clancy et Armand Gury, qui étaient à la technique aujourd'hui, à Laurence Sabiré-Séban, Marc Savino, Bruno Guironet, et bien sûr Boudjema Daban, qui ont participé à la conception de cette émission. Messieurs, puisque nous ne sommes que des messieurs ce soir au micro, eh bien merci. Et
merci
puis...
à vous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.